RCF.
Bonjour auditeurs, auditrices de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry avec Agora Défense. Alors pour cette troisième émission consacrée à Maurice Bourlon, capitaine au 19e bataillon de chasseurs, mort pour la France le 21 août 1914, mais aussi grand préhistorien, nous nous intéresserons aux répercussions, si je puis me permettre, de la méthode Maurice Bourlon dans la connaissance scientifique des premiers hommes. Pour nous en parler, notre invité, Françoise Trottignon, docteur en préhistoire de l'Université de la Sorbonne, trésorière aussi adjointe de la Société archéologique et d'histoire du Berry. J'en profite d'ailleurs pour insister très lourdement sur la qualité des publications des cahiers d'archéologie et d'histoire du Berry. Auditeurs, auditrices, allez vous renseigner. Il y a des numéros absolument fantastiques sur l'histoire du Berry, sur l'histoire du département du Cher, fait par des historiens compétents sur toute notre histoire, concernant toutes les époques. Alors véritablement, abonnez-vous, mais allez découvrir les cahiers d'archéologie d'histoire du Berry. C'est une mine absolument exceptionnelle hein, sur l'histoire du Berry. N'hésitez pas. Alors, Françoise, nous revenons à notre ami Maurice Bourlon. Et justement, je m'appuie sur un de vos articles hein, paru dans la Société archéologique hein, de sur Maurice Bourlon. Françoise, bonjour.
Oui, bonjour.
On va revenir un petit peu dans le cœur du sujet. Les fouilles archéologiques ne sont-elles pas une mode en ce début du XXe siècle? Et comment est-ce que Maurice Bourlon va transformer ce divertissement, entre guillemets, hein, en une véritable passion où l'intérêt scientifique va primer sur la mode?
Si Maurice Bourlon, c'est vivant à la campagne, a écumé un peu les champs pour trouver des silex, il a vite conçu une passion pour la préhistoire. Et comme c'était quand même un homme qui avait un bon niveau d'instruction et qui était très pragmatique dans son approche, il a tout de suite voulu aller aux Aisies, qui était le foyer préhistorique par excellence en France à l'époque.
Je vous arrête. Les Aisies, c'est où?
Les Aisies de Taillac, à côté de Sarlat, donc c'est la vallée de la Vézère, avec la vallée de la Vézère qui est le foyer, parce que ça a sûrement été protégé et qu'il y a beaucoup d'abris sous roche et que il s'est trouvé qu'on a découvert les plus anciens historiquement de découvertes de grottes préhistoriques et puis d'abris sous roche décorés dans cette vallée de la Vézère. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une occupation préhistorique en France beaucoup plus vaste, qui ne se limite pas au Périgord. Dans les Pyrénées et le Périgord, c'était vraiment le berceau de la science préhistorique, sinon de la préhistoire elle-même. De la science préhistorique. Donc Bourlon est allé aux Aisies, évidemment attiré par les découvertes qu'on y faisait, et il a rencontré tout un tas de préhistoriens qui venaient à l'époque rôder, puisqu'il y avait même un espion allemand qui s'appelait Hauser qui achetait tout, par exemple il avait voulu acheter le squelette de l'homme du Moustier, mais ça s'est mal passé, la guerre de 14 est arrivée, il a été évacué, on l'a convaincu d'espionnage, mais en réalité il achetait pour les musées, c'était du business aussi, il faut bien le dire. Tous les musées sur toute province ont des objets qui viennent des Aisies. Une pointe de flèche par-ci, une baguette par-là, un galet gravé, voilà. C'était du commerce, mais Maurice Bourlon n'a pas voulu se contenter. Lui aussi, il a acheté des choses. L'abbé Breuil aussi a commencé sa carrière en estimant des collections. Il gagnait sa vie, ce qui lui permettait, tout ecclésiastique qu'il était, de financer des voyages pour relever des grottes, ne serait-ce qu'à Altamira ou dans les Cantabres.
Ah, à ce point-là.
Oui. Alors, on lui a reproché, jusqu'au moment où l'abbé Breuil a été nommé à la tête de l'IPH, ce qui lui a permis d'être un peu déchargé de trouver de l'argent pour financer ses campagnes. Il était professeur à Fribourg aussi. Mais Maurice Bourlon, lui, il a bénéficié probablement de la fortune de ses parents. Oui. Parce que sa solde était maigre. Et il a acheté quelques collections. Mais aux Aisies, il a rencontré beaucoup de préhistoriens. Denis Perroni, il a rencontré l'abbé Breuil, il a rencontré Cartaillac. Et ces gens-là, compte tenu de ces trouvailles au Moustier, venaient chez lui pour étudier ses collections. Et ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas n'importe quel soldat qui reçoit le directeur de l'école d'anthropologie.
D'accord.
Ou le professeur de l'abbé Breuil. Donc, probablement que ses collègues en avaient peut-être conçu une certaine jalousie. D'ailleurs, il n'était pas très bien noté par ses supérieurs, sauf un qui disait qu'il avait une vie, qu'il avait des malheurs. De fait, il a divorcé, puis il avait perdu une petite fille à 2 mois. C'est vrai que ça avait dû le perturber. Il a en plus été décoré de...
Des pommes académiques,
ce qui a entraîné aussi des jalousies chez les culottes de peau, comme on dit. Et ce qui fait que...
Qu'est-ce que vous entendez par culotte de peau, Françoise?
Mais cela dit, donc du fait de ses recherches, du fait de ses résultats, il a participé au Congrès international des sciences préhistoriques et protohistoriques à Monaco en 1906, où se trouve le banc et l'arrière-banc de la préhistoire mondiale, avec des savants russes, des savants mexicains, des savants allemands. Tout le monde est à Monaco en 1906 et écoute Maurice Bourlon et liront l'article qui publiera dans les actes de ce congrès de 1906. Et c'est le début d'une gloire, d'une gloire de préhistorien. Et il va continuer à travailler sur d'autres sites. Il va établir la chronologie du Magdalénien du Loiret en déclarant fossile directeur une certaine pointe à cran triangulaire, qui est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle le fossile directeur. Il a étudié également les terrasses de la Loire, la Loire moyenne, en voyant toutes les bifaces et les types de bifaces qu'on pouvait trouver. Il a étudié, comme je l'ai dit, le mode opératoire utilisé par les tailleurs de pierre à fusil à Meune, pour bien voir comment on faisait des lames, etc. C'est un homme qui a apporté une pierre très importante. Il aurait eu une carrière tout à fait brillante s'il n'avait pas été tué le 21 août 14.
Justement, François, une petite question piège. Il faut bien que je vous pose une question piège. Parlez-moi du moustérien, parce que j'étais surpris par moustérien, d'une manière simple pour nos auditeurs.
Le moustérien. La grosse question du moustérien, c'est est-ce que c'est le... Quelle est la place du moustérien? Puisque, oui, on va faire simple, le moustérien, c'est caractérisé par des grands racloirs assez élaborés, très, très soigneusement faits, et des bifaces qui sont ce qu'on appelle des très minces, très réguliers, des très belles pièces, par rapport aux gros bifaces moches, qu'on trouve au début de l'époque préhistorique. Alors, est-ce que le moustérien est la fin du paléolithique moyen? Est-ce que c'est le début du paléolithique supérieur? Comment est-ce qu'il se place dans la stratigraphie? L'abbé Breuil veut que le moustérien soit avant le l'aurignacien, et c'est l'aurignacien qui est le début du paléolithique supérieur. Bon, alors les travaux de Bourlon permettent à l'abbé Breuil de caler sa stratigraphie du paléolithique supérieur qui va publier en 1912.
Tout à fait, très bien.
Et c'est un article qu'on nous faisait étudier, et Michel Brézion nous disait, c'est un modèle d'article, tout est là-dedans, inspirez-vous-en toujours pour vos articles.
Françoise, vous vous souvenez de vos cours à la Sorbonne, là?
Oui.
N'est-ce pas?
Au Musée de l'Homme.
Au Musée de l'Homme.
Oui.
Alors, quels étaient vos professeurs, là, au Musée de l'Homme?
Le professeur Leroy Gourand et Michel Brézion.
Et quel souvenir en gardez-vous?
Un souvenir incroyable.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jargon. Les choses étaient très claires. On était toujours dans le concept. On devait toujours justifier le moindre mot qu'on utilisait. Le professeur Legourand était extrêmement respectueux, mais tout le monde était là, suspendu à ses lèvres, tandis que Michel Brézillon était beaucoup plus incisif. Et quand on était convoqué pour faire l'état de ses recherches devant Leroy Gourand, tout le monde était dans ses petits souliers. Et Michel Brézillon pouvait, ce qu'on appelait, nous descendre en plein vol en disant « Mais c'est complètement naze votre truc ». Voilà ce qu'il disait. Et là, on avait peur.
Justement, quel était le thème de votre doctorat?
La figuration humaine au Magdalénien. Non, c'était la maîtrise.
La maîtrise, alors?
La maîtrise, c'était la figuration humaine au Magdalénien.
D'accord.
Et puis la thèse, c'était les industries badgouliennes de la Briefrich.
Et vous avez fait ça en quelle année?
J'ai passé la maîtrise en 70, puis après j'ai mis 10 ans à faire la thèse, puisque je fouillais la grotte en même temps, donc c'était 81.
Ah, d'accord. Un grand souvenir.
Oui.
Une passion.
Et on nous disait, surtout c'était ça qui était très formateur pour nous, on nous disait qu'on pouvait être effectivement tenté par une gloire immédiate, mais que ce qui comptait en dernier sort, c'était de faire des articles qui tiendraient la route dans 20 ans.
Ah ben justement, Françoise, alors là, vous me donnez véritablement la question synthèse. Françoise, en quelques phrases, est-ce que vous pourriez me donner véritablement les caractéristiques de la recherche de Maurice Bourlon et aussi en quoi il a fait évoluer la préhistoire. En deux phrases.
Maurice Bourlon a étudié ses propres, enfin, il a fait ses propres fouilles sur lesquelles il s'est calé pour travailler avec l'abbé Breuil pour établir une théorie. Et en ça, il a eu affaire à forte partie, puisqu'il y avait les écrits de Gabriel de Mortillet, qui étaient réécrits par Adrien, donc, qui était un homme. À l'époque, il faut lire les échanges de coups, il faut voir ce qui s'envoie. C'est extrêmement violent.
Oui.
Entre l'abbé Breuil et Mortillet. Ah ben, c'est amusant, maintenant c'est beaucoup plus feutré. Mais Maurice Bourlon n'a pas eu peur de s'opposer à Adrien de Mortillet. Et ça, c'était courageux de sa part.
Merci Françoise pour vos explications de qualité qui nous ont permis de mettre en lumière ce capitaine humaniste, mais aussi préhistorien, mort trop jeune, comme beaucoup dans ce terrible carnage de 14-18, mais aussi ô combien novateur dans cette quête de l'histoire des premiers hommes. Ils étaient natifs du Cher, il était natif du Cher et profondément attaché à sa région. Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices. Et bonne semaine à l'écoute de RCF avec Agora Défense et l'émission Le Berry se raconte. Et Françoise, encore merci pour ces explications passionnantes. Merci Françoise.